Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du vendredi 24 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Un célèbre responsable des volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso est tombé dans une embuscade hier. Il était engagé dans la lutte contre le terrorisme. En RDC, deux bastions des rebelles ADF repris par les armées congolaises et ougandaises. En Ouganda, 15 personnes poursuivies pour terrorisme après des attaques à la bombe. Le monde se prépare à un deuxième Noël assombri par l'explosion du variant Omicron. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, un célèbre responsable des volontaires pour la défense de la patrie VDP, Soumaïla Ganamé Dilaji Yoro, a été tué hier dans une embuscade. Le pays est dans l'émoi et la déception. C'est un symbole de la lutte contre le terrorisme qui tombe. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le Burkina Faso pleure ce vendredi un héros. Alors que les forces de l'ordre auraient fui sa province du Loroum dans le centre-nord du pays, Ladji Yoro et son petit groupe de supplétifs étaient les seuls sur le terrain. Ils n'hésitaient pas à aller au front contre les djihadistes malgré leurs armes de fortune. Dans des vidéos récentes, il avait affirmé que ces hommes escortaient souvent des éléments des forces armées nationales dans certaines parties du Nord. Ladji a échappé à plusieurs attaques terroristes. On le disait doté de pouvoirs surnaturels. Son groupe était démuni face à des djihadistes plus nombreux et mieux armés. Il lançait régulièrement des appels à l'aide à l'État. En vain, ce jeudi, Ladji est mort. Son groupe de combattants est tombé dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés. Vendredi, en début d'après-midi, le gouvernement n'avait officiellement donné le bilan de cette attaque qui a tué au moins 4 VDP. Selon l'agence d'information du Burkina, l'attaque terroriste a visé un convoi de commerçants ayant quitté Waiguia pour Titao, à une vingtaine de kilomètres après Waiguia. Sa disparition a plongé de nombreux Burkinabés dans la déception et la tristesse. Plusieurs internautes sur les réseaux sociaux ont rendu hommage au chef VDP. Hommage à Ladji Yoro, mort pour la patrie, a écrit sur son compte Twitter le président du Faso. J'associe à cet hommage tous les VDP qui se battent inlassablement jusqu'au sacrifice suprême. A terminé le président Kabore. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Trois personnes ont été tuées jeudi dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Tchad, à 450 km à l'est de la capitale N'Djamena, dans une région en proie à des conflits intercommunautaires meurtriers, a déclaré vendredi à l'AFP le gouverneur de la province du Bata. Les violences ont opposé des baloulas, des cultivateurs sédentaires à des éleveurs nomades arabes dans le village d'Abkorno, dans le centre du Tchad. Des bœufs, des éleveurs sont entrés dans un champ et les violences ont commencé quand les cultivateurs ont tenté de les repousser, a souligné le gouverneur Jimta Ben Bergon. Les armées congolaises et ougandaises engagées dans des opérations conjointes contre le groupe d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF ont annoncé vendredi avoir conquis deux importants bastions de ces rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue de combats acharnés. Les détails avec Ginny Kapumbu Villa.
Les forces armées de RDC, FRDC et de l'Ouganda, UPDF, affirment avoir neutralisé Kambia Djoua 2, deuxième grand sanctuaire des ADF, après Kambia Djoua 1, situé en plein parc national des Virunga, dans le sud de Beni. Elles ont fait état de deux blessés côté FRDC-UPDF. Les troupes FRDC-UPDF sont engagées depuis le 30 novembre dans une opération conjointe contre les ADF dans le territoire de Beni, Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Implantés depuis 1995 en RDC, près de la frontière ougandaise, les ADF sont considérés comme le plus meurtrier des groupes armés sévissant dans l'Est, responsables du massacre de milliers de civils. Ils sont aussi accusés par Kampala d'être responsables de récents attentats sur son sol, revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique, EI, qui présente ce groupe comme sa province en Afrique centrale, ISCAP.
En Ouganda, 15 personnes sont poursuivies pour terrorisme après de récentes attaques imputées aux rebelles ADF. Une série d'attentats à la bombe en octobre et novembre ont fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés. N'est-ce pas, Nathalie Barge?
15 personnes ont comparu devant le tribunal hier pour des accusations de terrorisme, de soutien, d'encouragement au terrorisme et d'appartenance à un groupe terroriste, a déclaré le porte-parole adjoint de la police de Kampala, Luc Owoyesigire. L'explosion dans un restaurant routier le 23 octobre a fait un mort. Deux jours plus tard, plusieurs personnes ont été blessées dans un attentat suicide dans un bus près de Kampala. Le 16 novembre, 4 personnes ont été tuées et 33 blessées dans 2 autres attentats suicides dans la capitale, revendiqués par le groupe État islamique. Selon le porte-parole de la police, les 15 suspects ont été impliqués dans les 4 attentats et resteront en détention jusqu'au 13 janvier, date à laquelle ils comparaîtront de nouveau devant le tribunal. À la suite des attentats, l'Ouganda a déployé en novembre ses forces armées et lancé des frappes aériennes visant les ADF en République démocratique du Congo après l'accord de Kinshasa. En mars, les États-Unis ont placé ces rebelles sur la liste d'organisations terroristes liées au groupe État islamique.
Le président uruguayen Luis Alberto Lacalle Pou a choisi de célébrer vendredi le réveillon de Noël avec les 800 casquets bleus de son pays déployés dans l'est de la RDC. Il est arrivé à Goma, a déclaré à l'AFP à Madouba, un responsable du bureau de l'information publique de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO à Goma. Demain, il se rendra également à Bukavu, chef-lieu de la province voisine du Sud Kivu, a-t-il ajouté. Le gouvernement éthiopien a affirmé vendredi que ses troupes n'avanceraient pas à l'intérieur du Tigré, où les rebelles se sont repliés cette semaine, mais a ajouté que cette position pourrait changer si la souveraineté territoriale du pays était menacée. Lundi, les rebelles du Tigré ont annoncé s'être repliés dans leur région, quittant celle voisine de l'Amara et de l'Afar, où ils avaient progressé ces derniers mois. Toujours en Éthiopie, Internet est devenu un autre champ de bataille où les partisans des deux camps répandent de fausses nouvelles pour tenter d'imposer leur vision du conflit. Les experts mettent en garde, ces campagnes en ligne alimentent une situation déjà explosive dans un pays fortement marqué par les tensions ethniques. Les communications sont coupées dans les zones des combats et l'accès des journalistes y est restreint, rendant difficile toute vérification indépendante sur le terrain. L'Afrique du Sud a décidé de mettre fin au traçage des cas contacts de personnes testées positives au Covid-19, estimant que la majorité de la population a déjà été en contact avec le virus. Le traçage de cas contacts va être arrêté avec effet immédiat, sauf dans le cas de clusters ou de cas positifs dans des lieux fermés comme les écoles, prisons, maisons de retraite ou grands rassemblements, selon une circulaire de la Direction générale de la Santé envoyée jeudi soir aux responsables provinciaux. Les États-Unis lèveront le 31 décembre, après un peu plus d'un mois, les restrictions au voyage pesant sur 8 pays africains qui avaient été imposées pour ralentir la propagation du variant Omicron, a fait savoir vendredi sur Twitter un porte-parole de la Maison-Blanche. L'arrivée sur le sol américain est actuellement interdite aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, des Swatini, du Mozambique et du Malawi. Une décision qui avait été annoncée le 26 novembre par excès de précaution, a rappelé la Maison-Blanche.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliards de personnes à travers le monde s'apprêtent à fêter Noël. Après l'espoir de liberté retrouvée grâce à la vaccination, l'apparition du variant très contagieux Omicron a assombri l'ambiance dans les familles. Des détails avec chérubin Gabi Dorsil.
Pour la deuxième année consécutive, la flambée des infections au Covid-19 jette un froid sur les projets festifs de Sydney à Séville. À Bethléem, l'hôtellerie qui attendait un afflux de touristes affiche sa déception. Après un confinement presque total l'an dernier, Israël a de nouveau fermé les frontières. Sur la place où trône un sapin géant, seuls quelques badauds, palestiniens et étrangers vivant en Israël ou en Cisjordanie, prenaient des photos du cortège scout avec leur téléphone. Comme en 2020, la messe de minuit y sera réservée à un petit cercle de fidèles, sur invitation seulement. Au Vatican, la traditionnelle messe de Noël sera présidée par le pape François en la basilique Saint-Pierre de Rome. Avant le lendemain, la 8e bénédiction Urbi et Orbi du souverain pontife argentin depuis la place Saint-Pierre. Ailleurs dans le monde, même si les Pays-Bas sont confinés, Broadway a annulé les spectacles de Noël et l'Espagne a réintroduit le masque obligatoire à l'extérieur, les rassemblements seront généralement plus aisés que l'an dernier. Des millions d'Américains comptent voyager dans leur pays, même si la vague d'Omicron dépasse déjà le pic du variant Delta et que les hôpitaux manquent de lits. Dans une période aussi sombre, Noël est un rayon de soleil, un fragment d'espoir, a déclaré l'archevêque catholique de Sydney, Anthony Fisher, dans son message de Noël. Pour le premier ministre britannique, Boris Johnson, un certificat de vaccination serait bien indiqué au pied du sapin.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Au Cameroun, la taxe à l'exportation pour le miel et le poivre est supprimée dans la loi des finances 2022 promulguée par le président Paul Biya. Ces deux produits sortent ainsi de la liste de ceux soumis à un droit de sortie au taux de 5% comme le riz, l'huile de palme et le sorgho. Le poivre de Benja et le miel d'Oku sont labellisés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La Mauritanie a signé un accord avec New Fortress Energy pour développer d'ici 2024 le champ gazier de Banda et la construction d'une centrale électrique à partir du gaz de 120 MW, indique le ministère du Pétrole. Le champ de Banda se situe à plus de 60 km des côtes mauritaniennes, à une profondeur sous-marine entre 200 et 300 mètres. Les experts estiment un tel projet difficilement faisable en 3 ans. Le Ghana a enregistré sa plus forte croissance depuis le début de la pandémie de Covid-19. Selon les statistiques officielles, son taux est de 6,6% au troisième trimestre 2021. Elle a été portée notamment par les secteurs de l'éducation, la restauration et l'agriculture. Le secteur industriel s'est cependant contracté de 2%. Le taux de croissance au Ghana était de 9% au premier trimestre 2019.
Et nous passons à votre page sport avec Élisée Onkpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir tout le monde. On connaît désormais la composition du comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football, 9 mois après sa suspension par la FIFA pour ingérence gouvernementale. Ce comité sera dirigé par Jacqueline Moudena et comme membres Ney et Moussa Abaka, ainsi que Eugénie Mbenaï, jusqu'au 15 novembre 2022. Ils ont pour mission de gérer les affaires courantes de la fédération, réviser les statuts et le code électoral en vue d'organiser l'élection d'un nouveau président. Une tâche immense. Selon Jacqueline Moudena, présidente de cette commission de normalisation.
C'est une tâche immense, elle l'est vraiment, parce que le football tchadien est complètement malade. Aujourd'hui, ce comité qui a été nommé par la FIFA, c'est un comité qui doit soigner cette maladie-là. Donc je crois que ce qui a lieu de faire, c'est de prendre les taureaux par les cornes, commencer les choses par le bas pour remonter jusqu'au haut, parce que aujourd'hui je crois qu'il y a la politique qui s'est vraiment investie dans cette fédération. C'est ce qui a justifié la corruption, la malgouvernance, et nous devons faire un travail, mais un grand travail, pour pouvoir redresser et normaliser la fédération tchadienne de foot.
Il faut signaler que les membres de cette commission ne pourront pas être candidats pour les élections de la fédération. On se rend cette fois au Cameroun avec la Coupe d'Afrique des Nations. Après de 2 semaines du coup d'envoi, le Sénégal affiche la couleur. Une liste de 27 joueurs retenus par Aliou Cissé pour aller soulever le trophée au soir du 6 février prochain. Et pas de surprise ni de nouveaux venus. On note quand même la sélection de Kalilou Koulibaly et d'Ismaïla Lassa, actuellement blessés. Mais le sélectionneur espère les récupérer à temps pour la compétition. Sinon, pour le reste, on retrouve les cadres tels Sadio Mané, Edouard Mendy, Gana Gueye ou encore Tchékou Kouyaté. Le technicien sénégalais a aussi fait confiance à Bamba Dieng, Pape Gueye, Bounassa, Abdou Diallo ou encore Balo Touré qui ont rejoint récemment la tanière. Le finaliste malheureux de la précédente édition affrontera dans le groupe B le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. La Côte d'Ivoire est très attendue aussi et Patrice Boumel a publié une liste de 28 joueurs avec le retour de Wilfried Zaha. Le sélectionneur français, qui dispose d'un sacré réservoir pourra compter sur l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, Sébastien Haller, ou encore des cadres comme Serge Aurier, Eric Bailly, Séré Dier, Franck Kessier, Mass-Alain Gradel et Nicolas Pépé. En revanche, le milieu Seko Fofana du Racing Club de Lens n'y est pas. Il avait demandé à être laissé à la disposition de son club durant les prochains mois. Au Cameroun, la Côte d'Ivoire logée dans la poule E jouera contre la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et l'Algérie.
C'était les sports de Élisée Onpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, dénonce de nombreux dysfonctionnements de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Cette organisation de la société civile s'insurge contre les activités des groupes d'autodéfense, des civils armés, des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte contre le terrorisme. Des observateurs pensent que les activités des groupes d'autodéfense sont à proscrire dans un état de droit. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le gouvernement burkinabé a fait beaucoup d'erreurs dans la lutte contre le terrorisme. Au nom de ces erreurs, il y a la question des civils armés.
Ces civils armés ont profité des armes qu'ils possèdent pour s'adonner à des exactions, à des violences basées sur les gens et sur des cas de disparition forcée.
Docteur Daouda Diallo est le secrétaire général du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Ce qui entraîne la spirale des violences, les VDP qui, au lieu aujourd'hui de sécuriser les populations, sont devenus des facteurs d'exposition des populations civiles et des facteurs d'exposition des villages qui sont fortement dégradés à cause de leur présence. S'il y a lieu de recruter des auxiliaires qui vont appuyer l'armée, il faut le faire selon une procédure régulière, transparente, d'une bonne moralité, les enrôler en même temps dans l'armée pour que l'action soit contrôlée, suivie et que les droits humains soient respectés.
Les groupes d'autodéfense au Burkina Faso n'ont aucun statut juridique. Hein. C'est des groupes informels, mais les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, sont régis par une loi.
Pazien est juriste et analyste politique.
Les activités des groupes d'autodéfense sont à proscrire dans un état de droit, dans une république. Et je l'ai toujours dit, c'est à remettre en cause, contrairement donc aux VDP. Sauf que dans le cas du Burkina Faso, ça a été un recyclage plus ou moins d'un groupe de défense qui sont retrouvés, eux, à leur tour, à être des VDP. Mais je pense que la meilleure formule aurait été l'appel sous les drapeaux, parce que c'est ce que la loi prévoit, qu'on puisse appeler les citoyens lambda à donc venir exercer en tant que militaire.
Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a été créé au lendemain du massacre de Yirgu dans le centre-nord, qui a fait 210 morts en janvier 2019, selon le collectif. L'organisation s'indigne aujourd'hui, 3 ans après, qu'il n'y ait eu aucune avancée judiciaire du dossier. Docteur Ibrahim Bari est l'un des porte-parole du collectif.
Après le drame de Yirgu, la justice a tenté de faire et il y a eu des entraves tout le long du parcours du dossier. Sur les 180 mandats à amener, seulement 11 personnes sont aujourd'hui en prison. De cette justice tant attendue et non venue, malheureusement, ça a été une déception, peut-être qui a entraîné des cycles de vengeance au-delà même contre les autres populations ou contre les trucs intercommunautaires et contre même les FDS.
Selon le collectif, depuis le massacre des civils à Yirgu, il a maintes fois tiré la sonnette d'alarme en expliquant que l'impunité de Yirgu risque fort de provoquer un embrasement dans la région du centre-nord et partant du Burkina tout entier. Nous n'avons pas été écoutés et les conséquences sont là aujourd'hui. A noter l'organisation. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les symboles de Noël résistent malgré l'explosion des cas liés au variant Omicron qui entraîne de nombreuses restrictions à l'heure des rencontres de famille. Surtout que vos enfants vous ont réclamé à longueur d'année ce super jouet en espérant l'avoir pour Noël. Mais comment choisir le cadeau de Noël de son enfant ? C'est un reportage signé Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Noël approche et la course aux cadeaux a commencé. Ici à Biétry, en zone 4C dans la commune de Makori, dans ce magasin qui ne désemplit pas, la directrice répond aux initiales RC. Elle donne sa position quant à l'offre du jouet.
L'important, c'est de lui montrer l'utilité de ce jouet. Communiquer avec l'enfant pour essayer de savoir vraiment le jouet lui sert réellement à quoi.
Non loin de là, à vrai dire, le responsable de notre magasin de vente de jouets nous donne son point de vue, Georges Assi.
Le jouet lui permet effectivement de s'épanouir d'abord, lui permet de s'occuper et ensuite de développer ses sens.
Mais comment choisir un jouet pour enfants? Réaction de Georges Assi.
Le jeu ne se choisit pas parce qu'il est beau ou grand ou d'actualité. Il faut choisir un jouet adapté à l'âge de l'enfant. C'est surtout ce qu'il faut.
Pour les parents rencontrés au marché de la Sikoji dans la commune de Yopougon, le choix des jouets forge la personnalité de l'enfant, l'adulte de demain.
Poupée, elle est dinette là, parce que c'est une fille. Là, c'est mieux.
Monsieur Kwame, hein, d'avoir plus de jouets, plus de construction pour l'enfant.
Monsieur Kwame Kofim, je vais essayer d'acheter des cadeaux qui vont les éduquer.
Concernant les jouets comme des pistolets offerts aux enfants, avis de responsable des magasins. Madame RC, des magasins situés à Biétry, se prononce.
Je suis contre les jouets qui incitent à la violence. Mais en vérité, c'est dangereux.
Georges Assis du magasin situé à Vridi.
C'est ce que les parents ont fait de ces armes-là qui inquiètent, qui ont développé l'esprit de violence chez les enfants. Mais je crois qu'en l'état actuel des choses, il faut quand même les éviter au maximum.
Une visite des rayons pour enfants avec Dame RC du magasin de Biétry.
Tu trouveras des poupées, tu trouveras des dinettes, tu trouveras des jeux de société, mais tu trouveras aussi de la déco de Noël, un peu de tout.
Monsieur Georges Assis, gérant du magasin situé à Vridi, fait le point de son inventaire en jouets.
Nous avons des jeux électroniques qui permettent aux enfants de s'habituer, de se familiariser avec l'informatique et faire rêver les enfants.
Les choix sont nombreux. Entre l'envie de faire plaisir et celle d'offrir un jouet utile qui puisse contribuer à son éveil et à son éducation, il n'est pas toujours simple de choisir le cadeau parfait pour un enfant. Delphine Bouiz, Abidjan, VOA, Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Un quartier de Brooklyn à New York fascine les visiteurs par ses splendides lumières de Noël. Le quartier de Dicker Heights peut se vanter de posséder certaines des explosions. Le quartier de Dicker Heights peut se vanter de posséder certaines des expositions de Noël les plus extravagantes. Elena Wolf nous promène dans ce décor magnifique. Le récit avec Ginny Kapumbu Villa.
C'est l'un des quartiers de New York les plus beaux et les plus magiquement décorés pendant la période des fêtes. Dicker Heights, à Brooklyn, unit les gens depuis 3 décennies avec son impressionnant spectacle de lumière.
C'est une énergie positive, vous savez. Ce n'est pas un truc politique. Tout le monde est ensemble. Tout le monde profite de cette ambiance festive. Donc, c'est une belle chose, quelque chose que tout le monde peut avoir.
Ron a acheté une maison à Dicker Heights en 2014. Depuis, à chaque Noël, il s'est procuré davantage de guirlandes, de lumière et de rallonges.
C'est diversifié. Tout le monde s'exprime de différentes manières. Certaines personnes ont des lumières blanches, d'autres des lumières colorées. J'ai une activité que je vais sortir demain. La vraie signification pour nous est la naissance de Jésus. Ce sera la pièce maîtresse de mon exposition.
Respectant la règle tacite du voisinage, Ron poursuit la tradition qui a été lancée par sa voisine, la mère Noël locale, Lucie Spata. VOA s'était entretenue avec Madame Spata en
1996.
En 1986, j'ai emménagé ici et cette décoration a été faite en mémoire de ma mère. Ça a commencé tout petit, j'étais la seule personne à le faire dans ce quartier. Et puis ça n'a fait que grossir. Au début, tout le monde s'en plaignait, mais ensuite, ils s'y sont habitués et ça a pris de l'ampleur. Et je n'aurais jamais pensé que ça marcherait aussi bien.
Après une année 2020 calme en raison du Covid-19, les touristes et les habitants, protégés par des vaccins, des rappels et des masques, ont retrouvé le chemin des lumières vives et joyeuses de Dicker Heights. Par exemple, ce papa accompagné de son enfant.
Nous venons de Chicago. Nous profitons de la journée. Ici, c'est tellement beau, totalement différent. Je suis de New York. J'ai vécu ici toute ma vie. Et c'est la première fois que je vois ça. Je veux dire, j'aurais aimé être ici quand j'étais enfant.
Cet homme anonyme est en pyjama. Il y a aussi une dame en costume de Père Noël.
Vous voyez que les gens vivent ici, ils le font pour les autres. Il y a ce sentiment d'intimité quand vous venez ici, comme si je pouvais entrer dans cette maison et prendre un chocolat chaud tout de suite, entouré de ces lumières. Donc je pense que c'est ce que l'on aime ici.
Ange, casse-noisette, ours polaire et bien sûr reine, Dyker Heights ne se gêne pas d'être trop grand, imaginatif ou magique. Cette maison est décorée en l'honneur de Michael, un adolescent atteint de dystrophie musculaire. Son père, Robert Capolongo, raconte.
Michael est sur le panneau ici. Il est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, qui est finalement une maladie qui affecte tous les muscles de son corps. Nous illuminons cette magnifique maison pour aider à sensibiliser le public. Ces magnifiques lumières vertes ressemblent à la cité d'émeraude du magicien d'Oz. Il y a plus de 50 000 lumières ici, mais elles sont aussi le symbole de la dystrophie musculaire de Duchenne. La couleur verte, donc, c'est en partie pour cela qu'il éclaire en vert également.
Capolongo ne vit pas ici. Il dit que la maison appartient à un voisin qui l'a aidé à collecter plus de 2 millions de dollars pour la recherche sur la dystrophie musculaire. Au-delà du spectacle, Dyker Heights à Brooklyn est un quartier qui continue à apporter de l'espoir et de la joie, même dans les moments les plus difficiles.
Lors d'un point de presse de fin d'année, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné le renouvellement des alliances des États-Unis à l'étranger. Il a aussi abordé les défis de politique étrangère tels que les actions de la Russie en Ukraine et la crise humanitaire croissante en Afghanistan. Cindy Sain, correspondante diplomatique senior de VOA en D+, le récit avec Michel Joseph.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est adressé aux journalistes pour faire le bilan et parler d'avenir après une année mouvementée, parfois tumultueuse.
Nous sommes engagés dans la diplomatie et la dissuasion en même temps. Ces deux approches vont de pair. Comme vous le savez, pour revenir un instant en arrière, le président Biden, lors de sa première rencontre avec le président Poutine à Genève, il y a quelques mois, et vous y étiez, a dit au président Poutine que notre forte préférence milite pour une relation plus prévisible et plus stable entre la Russie et les États-Unis, mais que si la Russie continue à s'engager dans des actions imprudentes ou agressives, nous répondrions, et nous répondrions de manière robuste.
De nombreuses questions ont porté sur la guerre en cours entre l'Ukraine et les séparatistes soutenus par la Russie et sur les craintes d'une nouvelle invasion russe avec un renforcement massif des troupes russes le long de la frontière commune aux deux pays. Monsieur Blinken a de nouveau appelé Moscou à désamorcer la situation et à retirer ses troupes. Il a déclaré que les États-Unis sont prêts à organiser des discussions avec Moscou et toutes les parties prenantes dans la région, probablement en janvier. On a également demandé à M. Blinken s'il regrettait le retrait précipité et chaotique des États-Unis d'Afghanistan qui a favorisé la prise du pouvoir par les talibans à Kaboul en août. Il a répondu qu'il y aura du temps pour réfléchir, mais que le président Joe Biden avait tenu sa promesse de mettre fin à la guerre américaine de 20 ans en Afghanistan.
We knew this would be challenging. It was.
Nous savions que ce serait un défi, il a été, et nous tirons des leçons de l'évacuation et de la réinstallation pour l'avenir. Mais c'est aussi la première fois en 20 ans qu'aucun soldat américain ne passe les fêtes en Afghanistan et nous n'envoyons pas une troisième génération de soldats américains se battre et mourir là-bas.
Monsieur Blinken a déclaré que les États-Unis sont pleinement conscients de la souffrance du peuple afghan et qu'ils travaillent intensément avec leurs alliés pour que les liquidités reviennent dans l'économie afghane et que l'argent se retrouve dans les poches du peuple afghan et non dans les mains des dirigeants talibans.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. Eric Manilakidza a été à la présentation et ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voaafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Excellent réveillon et joyeux Noël à vous tous. À la prochaine.